Salut, Lee. Ça va, Lee? Non, pas tellement, Lee. Tu sais, j'ai eu les pis en mer pour inscrire Marie-Clotilde à la Vierge effarouchée de l'Assomption fidèle. J'ai tout essayé. J'ai téléphoné au directeur, à l'échevin, au bourgmestre. Mon cousin, le curé, a essayé à l'évêché. Rien à faire, Lee. Fallait faire la file, fieu.
Cette année, les problèmes devraient être derrière vous. En effet, pour la troisième fois en 3 ans, les parents expérimenteront une nouvelle procédure d'inscription dans l'enseignement secondaire. Nous allons vous aider à mieux comprendre le nouveau décret mis en place par le cabinet de la ministre de l'enseignement obligatoire en communauté française, Marie-Dominique Simonnet. 3 fois en 3 ans, il y a donc eu 2 tentatives précédentes.
En effet, en 2007, avec le décret ARENA, le premier arrivé était le premier servi. En 2008, le décret Dupont, le deuxième essai, départageait les candidats par un tirage au sort. Ces décrets n'avaient pas facilité le processus d'inscription. Au contraire, parents et établissements scolaires avaient rencontré de nombreux problèmes, comme en atteste Madame Jans, directrice de l'Institut Saint-André à Ixelles.
Des problèmes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Des problèmes avec un grand P et des grands S, ouais. Monumentaux. Principalement des problèmes administratifs. En fait, au total, on peut dire que ce décret nous a coûté un emploi à temps plein pendant toute l'année pour des raisons administratives. Encodage des données, plus rassurer les parents stressés qui n'arrêtaient pas de téléphoner et de venir, et puis trier, principalement téléphoner à toute la liste d'attente. On a eu 3 fois plus de demandes qu'on avait de place, demandes surnuméraires, les parents s'inscrivaient dans beaucoup trop d'écoles, et donc on a travaillé jusqu'au 1er septembre pour essayer d'avoir une liste d'élèves à jour.
Le nouveau décret inscription est donc arrivé. Espérons que les principaux défauts des premières versions seront gommés. Éric Étienne, porte-parole de la ministre Marie-Dominique Simonnet, précise.
Bon, les précédents décrets, on les retient au travers de 2 mots finalement. D'un côté les fils, de l'autre côté la loterie. Eh bien, les principales améliorations, c'est qu'il n'y aura ni l'un ni l'autre.
Cette année, le cabinet a surtout voulu simplifier les démarches accomplies par les parents. Éric Étienne nous les explique.
La procédure serait en fait très simple, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là pendant tout le processus d'élaboration. Il y a un formulaire unique, le même pour tout le monde, et sur ce formulaire, on inscrit toute une série de choix, de 1 à 10 choix, et on va déposer ce formulaire dans l'école de son premier choix. Ça, c'est très important parce qu'on a le lien, le contact avec la direction au moment de l'inscription qui se fait dans cette école.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas eu idée des problèmes que susciterait l'inscription dans nos écoles. Néanmoins, entre autres idées reçues, rappelons que seuls 5% des écoles rencontrent un surplus d'inscription. 95% des enfants seront en effet admis dans l'école choisie par leurs parents. Mais pour les moins chanceux, c'est ici que les choses se compliquent. Dans un premier temps, dans les écoles où la demande est supérieure à l'offre, les directeurs attribueront 80% des places aux élèves prioritaires. Ces priorités seront définies par des critères objectifs. Des critères tels que la présence d'un frère ou d'une sœur dans l'école ou d'un parent employé par l'établissement. Dans un deuxième temps, la CIRI, la Commission Inter-Réseau des Inscriptions, appliquera aux 20% restants un autre système de critères. Ces critères ont fait l'objet de vives discussions politiques. En effet, les 4 premiers critères favoriseront l'aspect géographique. On prendra en compte, par exemple, la distance entre l'école primaire et l'école secondaire, ou encore la distance entre le domicile et l'école. Les 3 derniers critères privilégieront le partenariat pédagogique, les écoles isolées et l'immersion linguistique. Un deuxième point chaud politique des décrets concernait le critère d'adossement. Les élèves d'une école primaire adossée à une école secondaire bénéficient de privilèges d'inscription dans cette école. Après de nombreuses critiques du Parti socialiste, l'adossement sera supprimé à partir de 2013. Pour ceux qui craignent que le critère de partenariat pédagogique recrée une forme d'adossement, Roberto Galluccio, administrateur délégué du CP11, Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement neutre et subventionné, tempère.
Alors, le partenariat, il est contrebalancé par, avec exactement le même indice composite, par le principe des écoles isolées qui, donc, quand ils envoient leurs enfants, leurs élèves dans une école secondaire, eh bien, en termes de poids qu'ils représentent, c'est exactement le même que quand on est dans un établissement avec un partenariat. Et nous, on y a tenu absolument à ce qu'on ait cet équilibre entre les deux, tout simplement parce que pour nous, le partenariat pédagogique avec le fondamental, comme on l'a dit, est plus, encore une fois, un produit d'appel commercial qu'une réalité de terrain.
Rappelons qu'un autre souhait du cabinet était aussi de rendre la procédure plus transparente. Les collaborateurs de Marie-Dominique Simonet ont donc voulu recadrer le rôle des directeurs d'école. Il fallait empêcher certaines dérives. Il n'était pas rare, par exemple, de décourager les élèves sur base de mauvais bulletins. Finalement, quel sera encore le rôle des directions scolaires ? Éric Etienne nous répond.
Le rôle de l'établissement est central parce que l'établissement en question va, au bout des 15 jours, compter le nombre de formulaires, tout simplement. Si, comme dans plus de 90% des cas, il y a moins de formulaires que de places disponibles, c'est fini. Et c'est la direction qui informe les familles, voilà, votre enfant est inscrit. Donc le rôle est tout à fait central puisque tout se passe dans l'école. Pour les écoles qui sont pleines maintenant, là aussi le rôle est central parce que, en fonction des critères dont je parlais, essentiellement des critères géographiques, on pourrait y revenir, l'école fait un travail sur base de ces critères de sélection et va sélectionner directement 80% des jeunes qui vont, toujours au bout des 15 jours, directement aller dans l'école.
Cependant, du côté de l'Institut Saint-André, on ne partage pas cet avis.
Pas du tout, non, bien sûr, puisque nous ne sommes pas des personnes de confiance. C'est pour ça qu'on nous fait des décrets, parce qu'on est incapable de gérer de manière juste et honnête les demandes d'inscription. Donc, on nous impose un logiciel, puisque nous ne sommes pas suffisamment dignes de confiance pour le faire.
Beaucoup de parents ont dû entendre ce genre de musique d'attente lorsqu'ils tentaient de prendre connaissance de l'avancée du dossier inscription de leurs enfants. Cette année, des mesures ont été adoptées pour éviter ce genre de désagrément.
Je crois que ça c'est très important. Il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité et pas uniquement les gens qui lisent le soir La Libre ou qui écoutent La Première. Donc ça, c'est très important. Donc ce qui va être mis en place, c'est un numéro vert pour tous ceux qui se posent un certain nombre de questions. Accompagnera le formulaire un courrier explicatif pas à pas sur... Pas uniquement la procédure, parce qu'elle est très simple. On explique dans ce courrier qui accompagne le formulaire tous les critères pour qu'une personne, sachant qu'elle est domiciliée ici, puisse savoir dans quel jeu elle joue en fonction de ses choix. Donc il y aura ce courrier en même temps que le formulaire, le numéro vert pour ceux qui se posent des questions, et également un site internet.
Abordons un autre point chaud. En plus de simplifier la procédure d'inscription, le décret doit normalement instaurer une plus grande mixité sociale au sein des écoles. Pour ce faire, 20% des places seront attribuées aux élèves issus d'écoles à faible indice socio-économique.
Mais on m'a dit que dans sa classe, il y aurait un Mohamed et une Raïssa. À la Vierge effarouchée, vieux.
Mais 20%, est-ce suffisant pour influencer le public des écoles ? Du côté de l'enseignement neutre, Roberto Galluccio précise.
C'est une avancée, mais une très légère avancée pour le moment. Je pense que la mixité devrait être beaucoup plus marquée. On a toujours défendu l'idée justement d'une mixité, parce que notre gros souci, c'est par rapport à l'accueil des étudiants. En réalité, les communes et les provinces, on le sait bien, accueillent, parce qu'ils organisent un enseignement qui est plutôt orienté vers le technique et le professionnel, accueillent un public qui est relégué par l'enseignement général. Et cet enseignement général, on sait très bien que c'est le point fort de l'enseignement privé en communauté française.
Nous nous sommes également tournés vers le second réseau d'enseignement en Belgique. François Thévenin, porte-parole de la CEGEC, qui est le secrétariat général de l'enseignement catholique, nous a répondu.
20% c'est sans doute suffisant pour créer un appel d'élèves que l'école ne recrutait pas nécessairement encore que, parce que dans un certain nombre d'écoles, il y avait déjà ce mouvement vers davantage de mixité sociale. Il y avait déjà des élèves qui venaient d'ailleurs que du quartier, et notamment des élèves de milieux socio-économiques défavorisés. Maintenant, est-ce que ça va fondamentalement changer la population de l'école ? Il faut aussi bien voir qu'on doit s'interroger sur le sort de ces élèves. Comment est-ce que les professeurs, dans la mesure où ils n'étaient pas habitués à avoir un nombre important d'élèves différents de ceux qu'ils avaient d'habitude, vont réagir pédagogiquement ?
Et toi, au fond, comment tu as fait pour Pierre-Édouard ?
Il est à l'école 13, rue Constant van Overbroek.
À l'école 13 ? Mais c'est l'horreur, dit !
Mais non, il y a beaucoup de préjugés sur cette école, c'est pas si mal, quoi. Ils ont une belle cour de récré, ils ont des machines toutes neuves...
On peut dès lors se demander quelles seront les opportunités offertes par la mixité sociale au sein des écoles. Anne-François, présidente de l'ASBL Élèves, association de parents d'élèves, réagit.
C'est qu'on sait aussi, et ça c'est la communauté flamande appelle ça le Witteflug, qu'il y a un seuil au-delà duquel une école, si vous voulez, un seuil au-delà duquel une école ne peut plus travailler convenablement en cas de modification de son public.
Cependant, du côté de l'enseignement neutre, Roberto Galluccio souligne l'importance de la mixité sociale.
Comme on est vraiment dans un système très figé, il faut, d'une façon ou d'une autre, obliger ces écoles à s'ouvrir, enfin les écoles qui ont cette image positive à s'ouvrir. Et je pense que les seuls qui sont capables de le faire, ce sont les pouvoirs publics.
Face aux avis partagés, il est impératif de souligner les manques de moyens dans l'enseignement. L'enseignement en Belgique apparaît divisé en deux. Il y a d'un côté les bonnes écoles et de l'autre les mauvaises. Peut-être semblerait-il opportun de rendre toutes les écoles populaires. Les parents n'auraient plus dès lors qu'à inscrire leurs enfants dans l'école de leur quartier. Cependant, le décret passera son examen de passage dès la fin du mois d'avril. On pourra alors se rendre compte de l'efficacité de la nouvelle procédure d'inscription. Quant à la mixité sociale, il faudra se montrer plus patient pour en constater les effets. Le seul souci des parents sera de rendre le formulaire d'inscription, tandis que les enfants diront au revoir à leur école primaire.
Puis tu sais, le travail manuel, finalement, c'est l'avenir. Hein. T'as déjà vu ce que gagne ton plombier, dis.
D'accord, mais quand même, dis, l'école 13.
Ah, mais attention, hein, dis. C'est l'école où sont allés Hakima Dermouche et Adjalabip.
Dis, tu crois que quand on a fait la file pour s'inscrire, on peut encore changer d'avis après?